Regardez voir la photo sur France Inter.
Le photographe est souvent une cible. Pourquoi ? Parce que la photo, c'est la preuve. Il est témoin. Le photographe est souvent un gêneur.
Bienvenue dans ce monde d'images avec des photographes ou avec ceux qui soutiennent leur travail. Car il s'agit bien de travail. Le métier de photographe nous permet de voir le monde, là où nous n'irons jamais, là où nous sommes allés sans rien avoir vu. Et c'est vrai qu'il peut être non seulement une cible, mais gêneur, car c'est un premier témoin. Juste un petit mot pour vous dire que si vous avez raté les épisodes précédents de Regardez voir depuis le 30 juin, ils sont en podcast sur la page avec franceinter.fr et sur cette page, vous retrouvez les photos choisies par nos invités, des photos que je montre ici à des personnalités de France Inter et qui disent ce qu'elles voient. Et vous entendrez mes invités réagir. Mes invités, oui, car ils sont deux cet après-midi. Ils appartiennent à la même agence, Myop. Qu'est-ce qui les sépare ? L'âge. Julien Pébrel et Alain Keller sont deux générations différentes. Je ne vais pas vous dire leur âge. Ce qui les réunit, c'est la photographie. Pouvoir produire, exposer, éditer des ouvrages. La suite, vous allez la découvrir jusqu'à 15h, juste après un autre duo. Deux âges aussi, deux voix. Tony Bennett et Lady Gaga.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp. She likes the
green
grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Regardez voir se déroule effectivement avec deux invités cet après-midi. Alain Keller et Julien Pébrel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux photographes, évidemment. Qu'est-ce qui vous lie ?
L'agence dans laquelle on travaille, d'une part. Et d'autre part, avec Julien, on a une préférence pour les pays du Caucase et notamment le Haut-Karabakh. Je crois que ça, c'est un lien.
Alors, parlons de l'agence, Julien Pébrel. Vous êtes co-directeur de cette agence ou directeur ?
Co-directeur avec mon camarade Stéphane Lagoutte.
Voilà. Vous êtes entré à l'agence Myop dans quelle année ? Alors ça va être compliqué.
2011.
Et vous êtes donc depuis peu co-directeur.
C'est ça, depuis longtemps.
Pouvez-vous nous présenter cette agence Myop ?
Alors, c'est une agence de 20 photographes qui partagent, on va dire, tous en commun un certain intérêt pour le réel et les écritures du réel. Donc elle regroupe des photographes documentaires ou des photos journalistes. Voilà, essentiellement. On peut résumer ça comme ça.
Vous, Julien, vous avez 34 ans. Mm-hmm. Alain Keller, il ne veut absolument pas nous dire son âge. Mais est-ce qu'il y a une certaine génération ou au contraire, c'est assez mélangé?
Non, on va dire que c'est assez mélangé. Il y a peut-être une tranche d'âge qui correspond à l'âge des fondateurs. Mais non, non, ça va de moins de 30 ans au secret d'Alain Keller.
Au secret. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre Alain Keller, cette agence? Vous qui avez pratiqué d'autres prestigieuses agences dans votre parcours.
Le problème d'un photographe, je m'étais retrouvé comme étant un photographe indépendant après avoir été dans des grosses agences. Et être indépendant, c'est dur dans le sens où l'information circule d'une manière différente. Et puis, on a besoin d'avoir des écoutes, on a besoin d'avoir des contacts avec les photographes. Et un jour, il y a Ulrich Leboeuf qui est venu me voir, que je connaissais un peu, et qui m'a dit « Tu devrais venir à l'agence, voilà, on fait des choses, etc. » J'en ai parlé à ma femme, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu vas aller faire avec des petits jeunes ?» Et en fait, j'ai accepté. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire depuis très, très, très longtemps.
Pourquoi ?
Parce que je retrouve finalement un esprit, une bienveillance, quelque chose dont beaucoup de photographes peuvent rêver. Et j'en rêvais depuis... j'en rêvais depuis très, très, très longtemps. Il n'y a pas d'histoire de concurrence. Il y a des copains, il y a des photographes, il y a la photo, il y a l'image, il y a des entretiens, il y a des échanges, il y a des encouragements. Et puis, il y a des tas de choses que l'agence fait. Elle est très, 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 très active.
Par exemple, Julien Pébrel, quelle chose faites-vous dans cette agence, vous, en tant que co-directeur? Est-ce qu'il s'agit de trouver du boulot pour les photographes ou des projets collectifs?
Alors, le boulot des photographes, un peu, on va dire, mais essentiellement, non, la spécificité de l'agence, c'est que les photographes ont tous un peu leur économie et que leur économie ne repose pas sur l'agence. Non, je pense que ce qu'on partage, oui, c'est les expositions collectives, les projets de production collective qu'on essaye de mettre en place, des éditions, ça c'est la nouveauté un petit peu chez Myob depuis un an, c'est qu'on auto-édite avec une collection notamment de Myobzine sur laquelle on travaille depuis à peu près un an.
C'est-à-dire c'est un ouvrage, un photographe,
une histoire, un photographe, on les sort par lot de quatre et chaque photographe en aura un. Et tout ça, c'est géré en interne. Et la spécificité de l'agence, c'est que bah justement, c'est les photographes qui travaillent dessus. Donc la collection de Myobzine, il y a deux directeurs artistiques, par exemple. Pierre Ibre et Jean Larive, qui gèrent l'intégralité de ce truc-là. Et que voilà, ça se passe un peu comme ça chez Myob. On fait beaucoup de choses en interne. Et je pense que c'est ça qui nous amuse aussi. On aime bien faire, fabriquer des choses avec nos mains, des expos, des bouquins, des choses comme ça.
Alain Keller, comment vous vous définissez? Êtes-vous photojournaliste, photoreporter, auteur, photographe?
Photographe. Je suis photographe, j'ai été photojournaliste. Je crois que c'est une période passée. Ce qui n'empêche que les sujets géopolitiques continuent à me passionner et que je travaille encore un peu là-dessus. Mais je crois que je suis aujourd'hui beaucoup plus, je me dirais, photographe.
Dans ce que vous faites en photographie, qu'est-ce que vous cherchez à nous dire, à nous, en tant que spectateurs?
Je travaille beaucoup sur la mémoire. Je travaille beaucoup sur, je pense, quelque chose qui a dû me hanter depuis très très longtemps, qui est lié à une histoire de famille et que je mets en pratique au travers de certains reportages dans certaines régions, sur certains sujets, et du travail que j'ai fait beaucoup sur mes parents et ma mère, qui sont des choses à la fois très simples, mais qui sont excessivement importantes dans une espèce de transmission de la mémoire.
Vos grands-parents étaient
Alors mes grands-parents étaient juifs polonais, ils sont arrivés en France au début du 19e siècle, ils ont été déportés, donc je ne les ai pas connus, ou tout au moins je les ai connus au travers de ma mère, qui quand elle était jeune pleurait ses parents, pleurait sa petite sœur, Raymond, qui avait 13 ans quand elle a été déportée à Auschwitz et qui n'est jamais revenue. Et je crois que d'une certaine manière, ce sont des choses que j'entendais, des choses qui se sont mises quelque part dans ma tête, dans mon cerveau, que j'ai oubliées pendant un certain temps et qui sont revenues au moment où je voyais mes parents vieillir. Et là où j'ai commencé à les photographier d'une manière assez intensive.
Et vous avez commencé à les photographier et aussi à les filmer. Vous avez fait un film, par exemple, qui s'appelle « Le dernier voyage », que vous avez réalisé sur le convoi 66, hein, celui qui est parti de Drancy 20 janvier 44 pour Auschwitz. Et dans ce convoi, il y avait votre grand-mère, Anna. Et
oui,
puis, elle n'était pas seule.
Et Raymonde, qui était sa petite fille, donc la sœur de ma mère, qui avait 13 ans.
Et elles ne sont pas revenues. Et vous avez donc réalisé ce film. Et au début du film, il y a un moment très très court, mais très touchant, avec votre maman.
Alors, qu'est-ce que tu viens faire, là?
Je viens de te rendre visite.
Oh, c'est gentil de ta part. Tu vas attraper, comme on dit, à guitter crank.
Tu sais qui je suis? Qui je suis?
On va là ou quoi? Ici ou pas?
Et là, votre maman ne vous répond pas.
Elle ne me reconnaît pas. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc l'oubli, donc la perte de mémoire. Donc, quelque part, mon travail prend la suite de ce qu'elle a pu faire. C'est-à-dire, c'est un album de famille qui a été de toute manière initié par mes parents quand j'étais jeune et qu'ils ont arrêté au bout de 6 mois, 1 an. Et je reprends la suite de l'album de famille pour faire passer un message, pour faire passer ceci à mon fils Léo, qui, au demeurant, a monté le film que j'ai fait sur mes parents, sur le convoi 66.
Julien Pébrel, regardez-vous, vous qui êtes donc le co-directeur de l'agence Myope, mais aussi photographe, on va parler de votre travail, mais regardez-vous le travail des autres au sein de l'agence? Par exemple, connaissez-vous parfaitement le travail d'Alain Keller?
Il y a deux réponses. Regardez-vous le travail des autres, oui, même si on se dit assez souvent que finalement on le fait pas assez entre nous. C'est assez paradoxal, mais même si on est une agence de photographes, comme on est aussi, comme l'a dit Alain, une famille ou une bande de copains, c'est vrai qu'on passe plus de temps à parler d'autres choses que de photos quand on se voit. C'est très beau parce que ça veut dire qu'il y a autre chose que la photo qui nous rassemble, mais on parle pas assez de photos entre nous. Le travail d'Alain, c'est particulier. Donc, son boulot, je le connaissais avant de rentrer chez Myope. J'avais acheté son livre Vendeste. Donc oui, je le connais par cœur, on peut dire, presque.
Dans quelques minutes, on va regarder avec vous, Julien Pébrel, une photo d'Alain Keller. Et c'est Bernard Lavillier sur France Inter.
Main d'acajou, Barreto magnifique, les yeux fermés sur un transatlantique. Joue. Rêve de Ravel, de Mozart et de France. Combo cuivré, mais c'était pour la danse, pour la danse, pour la danse. Danse cambrée des tambours de Dakar, tourbillonner les pagnes du sabbat. Je rêve, je rêve. Dundun Guy Rose, respecté de partout, des présidents intimes de Youssou, Youssou. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un moment douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur. Bois qui saigne et la forêt qu'on brûle, les caillapos vidés de leurs tombeaux. Sauvage, sauvage. Voleur de terre sur le petit chevau, de cartouchières croisées sur la poitrine. Sauvage, sauvage. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans amour douceur, je marcherai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur. Si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un mot douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur.
Regardez voir cet après-midi avec deux photographes et pas des moindres, Alain Keller et Julien Pebrel. Ils sont tous les deux dans l'agence. J'ai envie de dire le collectif, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à dire l'agence Myope. Et pourtant, c'est bien une agence, hein.
Julien Pebrel. Le terme à l'origine, quand l'agence a été créée, donc il y a, moi je dis agence du coup, il y a un peu plus de 10 ans.
Elle a été créée par Guillaume Binet et Lionel Charrier.
Ouais. C'était le mot agence parce que je pense qu'à l'époque, elle fonctionnait un peu comme une agence, c'est-à-dire qu'on... Il y avait une revente des images qui étaient produites par les photographes, des commandes qui étaient passées via l'agence pour les photographes. Après l'évolution à la fois de l'économie de la photo et puis aussi des envies de chacun, a fait que l'agence travaille de moins en moins sur ça. Il y a de moins en moins d'archives qui sont vendues. Ça, c'est un problème global. Et puis les photographes, 10-12 ans après, font un peu moins de presse, travaillent un peu plus sur d'autres types de projets, ont plus envie de faire des expos, ont plus envie de faire des bouquins, ont plus envie de faire des...
Ouais, elle a glissé un peu vers un collectif, en fait, d'échange.
Alors là, on va se donner un exercice coutumier dans Regardez voir. Mais c'est vous, Julien Pebrel, qui allez regarder la photo qui est là sur la table du studio. Mmh. C'est une photo d'Alain Keller. Et vous allez nous la montrer avec vos mots. Cette photo est sur la page du site franceinter.fr à la page Regardez voir. Julien, c'est à vous.
Alors, pour évacuer un petit peu la description technique, c'est une photo horizontale, en noir et blanc, format 24-36, j'imagine prise avec ton Leica. Au premier plan, on voit un piano qui est recouvert d'un tapis, on dirait. Et assis devant ce piano, il y a un soldat, j'imagine, russe. Enfin, je dis russe parce que je sais où ça se passe, mais qui est en train de jouer du piano, assis sur une chaise un petit peu pourrie. Tout ça se passe au milieu d'un champ de boue. Il est très beau, d'ailleurs, le mec, avec une moustache. Et il est en train de jouer, et derrière, il y a 7-8 de ses camarades qui sont en train de l'écouter, qui sont un peu en rang. Il y en a un qui fume une clope, il y en a un qui se marre, il y en a un qui est en train de fouiller dans sa poche. Il y a une grosse mine posée devant eux, et puis au fond, ce qui ressemble à un camion militaire. Donc voilà, pour la description de ce qu'on voit, de ce que ça raconte. Ensuite, pour moi, c'est un espèce de moment en aparté de la guerre, quoi. Moi, j'ai pas été en Tchétchénie, mais j'imagine que ce qui s'est passé devait être assez dégueulasse. Et on voit des gens, mais en plus des gamins, quoi, qui sont en train de pendant quelques minutes essayer de penser à autre chose. Et je trouve ça, je trouve cette image absolument magnifique. Ça réhumanise aussi un petit peu ces personnes-là qui ont peut-être fait des choses absolument horribles et finalement on sait pas vraiment. Et puis avant d'être des soldats, c'était aussi des gens et pour une bonne partie d'entre eux des gamins.
Merci Julien Pebrel. Alors Alain Keller.
Oui, c'est dans le quartier général russe à Grozny, donc en janvier 1995. C'était dans un ancien parc, le plus grand parc de Grozny, qui a été complètement dévasté. Et il y a cet objet qui est totalement incongru au milieu du parc, il y a ce piano. Et dans toutes les guerres, il y a eu des photos, il y a eu des scènes où on voyait la musique. Quand le mur de Berlin est tombé, il y a Rostropovitch qui joue du violoncelle, etc. Il y a d'autres exemples. Et donc là, il y a ce Russe qui joue du piano. À la nuit tombante, je n'ai fait que 2 images, car la nuit tombait très vite. Je suis arrivé au bout de ma pellicule, j'ai remis un autre film, il n'y avait plus de lumière. Et comme je ne travaille qu'en ambiance, j'utilise pas le flash, c'était fini. Donc il fallait qu'il y en ait une des deux qui soit réussie. Donc c'est une image un peu folle, et c'est une image qui contraste bien évidemment avec la situation. On entendait des bruits de bombardement encore quand j'ai fait cette photo, et il y avait des morts quand on est arrivé dans ce quartier général. Il y avait des gens qui étaient étendus par terre et qui étaient morts. Donc voilà, il y a voilà la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs, j'en suis pas très sûr, mais elle était présente.
Alain Keller, pour cette photographie, étiez-vous là dans le cadre d'une commande pour la presse ou alors pour un travail personnel ?
C'était un travail personnel, c'était un travail que j'avais initié quelques années auparavant sur les minorités dans l'ex-monde communiste. C'est un travail que j'avais commencé d'une manière un peu journalistique à la chute du mur de Berlin, à la chute de l'Empire soviétique. Et puis un jour, au détour d'une rue, je me suis aperçu que j'allais sur les traces de mon histoire. Et ma perception de ce travail a complètement changé du jour au lendemain. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mes grands-parents étaient juifs polonais. Eh ben, les minorités dans l'ex-monde communiste, l'Union soviétique, la Russie, etc., c'est ces minorités qui étaient excessivement nombreuses, et c'est par ces minorités que le monde communiste a explosé. Donc c'est voilà. Donc c'était de l'autofinancement. Je n'y suis jamais, si j'ai une commande quand au cours de ce travail par le magazine Géo, mais bien de 2-3 années plus tard. Et il fallait y croire, j'ai eu, quand j'étais en Tchétchénie, j'ai eu excessivement peur, justement parce que j'avais pas d'assurance, j'avais personne derrière moi, et j'avais que cette espèce d'envie de faire des photos. Et de peur au ventre aussi. J'ai eu très, très, très peur en Tchétchénie. J'y avais déjà été au mois de décembre, et j'étais parti en courant quand les bombardements ont commencé, et quand j'ai réussi à avoir un téléphone satellite par une chaîne de télévision. Et j'ai eu au téléphone mon fils qui avait 2 ans. Et les deux seules choses qu'il a su me dire, c'est « Papa, viens ». Et en l'espace de 5 minutes, je me suis fait écrire la gare en russe, gare d'autobus, que j'ai donné en faisant mes bagages, que j'ai donné à un chauffeur taxi. Je suis parti à la gare d'autobus et j'ai quitté la Tchétchénie. Et quand je suis arrivé en France, je me suis dit, pour les vacances de Noël, c'est bête, il faut que j'y retourne. Et j'y suis retourné, mais j'avais mal au ventre. Mais j'y suis retourné, et c'est là que j'ai fait cette série.
Mais est-ce que c'est pour cela aussi qu'à un moment donné, vous avez arrêté de faire des news, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire arrêter de courir le monde, de rester 3 jours là, de revenir avec un superbe sujet, mais de ne pas prendre le temps de faire un travail personnel autour des commandes que vous aviez?
Oui. De tout temps, j'ai commencé la photographie avec cette envie de travailler sur le long terme. Et je me suis retrouvé par la force des choses à l'agence Sigma, qui était une agence extraordinaire, où j'ai passé des années absolument merveilleuses, où on m'a fait confiance. J'ai couru le monde et j'adorais ça. C'est-à-dire que voilà, je voyageais 8 mois par an. J'allais sur les points chauds de l'actualité. Souvent, on était envoyé par des magazines américains, Time ou Newsweek. Et on restait quelques jours. Et quand ce qu'on appelait l'assignment, la commande, se terminait, l'agence nous demandait de rentrer, alors que c'était le moment où il fallait rester pour gratter, pour faire un vrai sujet. Et ça m'a beaucoup perturbé, et c'est pour ça que j'ai quitté le système des grandes agences, où j'étais quand même heureux, où on gagnait à l'époque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Ça fait rire.
Mais j'étais resté sur ma faim. J'avais pas fait de la photo pour faire quelque chose de superficiel, et je voulais aussi m'engager un peu plus. Ce que j'ai fait plus tard, même en restant un peu à Sigma en Amérique centrale ou au Moyen-Orient. Donc à un moment, j'ai dit, je vais essayer de voler de mes propres ailes, et je suis parti.
Julien Pébrel, en 2018, quand on est photographe, gagne-t-on beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans l'économie de la presse aujourd'hui ?
Non. Alors non, dans l'économie de la presse, non. Peut-être qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Non. Et déjà, avant de se poser la question de gagner beaucoup d'argent, on se pose la question de pouvoir faire les sujets. Ça, c'est vraiment déjà la première chose.
Mais c'est cela, comment fait-on ? On part sur ses propres deniers, on assure son billet d'avion, et on espère au retour vendre les photos. Comment fait-on aujourd'hui ?
Moi, si je regarde depuis que je travaille, je pense qu'il n'y a pas un projet qui s'est construit de la même façon, donc il faut... Peut-être qu'il y a quelques années, le modèle, c'était la commande. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, moi, en fonction des cas, il y a une bourse qui tombe, ou il y a un festival qui donne de l'argent, ou il y a un magazine. Ça arrive aussi, il y a des magazines qui sont capables de s'intéresser à des histoires. Moi, je pense à Cosette, qui traverse et a traversé des moments difficiles et qui a été capable de me suivre et de nous suivre avec la journaliste avec laquelle je travaillais sur des projets, moi, que je trouvais fous. Et puis il y a effectivement au retour éventuellement la vente du sujet quand on l'a autoproduit, la vente à l'étranger aussi qui peut permettre de rentabiliser. Il y a plus une recette aujourd'hui. Donc à chaque projet, il faut un peu repenser et se dire bon bah voilà, je mets tout en route quoi. Je tente d'avoir une bourse, ça marche pas. Je tente d'avoir une commande, ça marche pas. Parce que j'ai un peu de sous de côté, je pars et j'espère que ça marchera. Voilà.
Julien Pébrel, avez-vous eu des modèles pour avancer en photographie, soit avec des livres, des expos, des rencontres?
Bah, il y en a en face de moi.
Bon, déjà.
Alain l'a été, l'est toujours sur une façon de travailler, même si notre photographie finalement est assez différente. Moi, je travaille en couleur, je fais du carré ou du 6-7, Alain fait du Leica noir et blanc, donc on n'a pas du tout la même esthétique. Mais sur la façon de travailler, on va dire peut-être journalistiquement, oui. Sur un plan plus, on va dire, photographique et esthétique. Beaucoup Denis Dailleux.
Denis Dailleux.
Ouais, j'adore son travail.
Que j'ai déjà reçu ici dans Regardez voir. D'ailleurs, les podcasts sont toujours là, vivants, sur franceinter.fr. Quand le ciel est cousu d'or, c'est Lisa Ekdahl qui est là avec l'aurore.
À l'aurore, quand le ciel est cousu d'or, doucement je me rendors, je veux.
Vous êtes bien entourés cet après-midi sur France Inter avec Alain Keller et Julien Pébrel pour Regardez voir, on parle de photographie. Je vais vous poser la même question, Alain Keller. Et vous, avez-vous eu des modèles quand vous avez commencé à faire de la photographie?
Je crois que quand j'ai commencé, j'ai été excessivement influencé par Cartier-Bresson et ses cadres, sa bordure noire, et par les photographes de Magnum des années 60, 70, qui sont vraiment restés des modèles pour moi. La photographie humaniste et surtout la manière de photographier, Leica ou 6-6 pour certains d'entre eux comme Werner Bischoff et leur approche de leur vision du monde.
J'ai lu quelque part en préparant cette émission que vous regrettiez de ne pas avoir commencé un travail personnel plus tôt dans votre vie.
Oui, totalement.
Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, non ?
C'est ce que je fais.
En retravaillant sur vos archives, etc.
Alors, je le fais aussi en allant sur le terrain, même si j'y vais un peu moins. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a des années de perdu parce qu'il y a cette espèce de folie quand on est jeune qui fait qu'on est prêt à tout affronter, à faire tout et n'importe quoi, mais travailler, faire beaucoup de choses que j'ai fait quand j'ai travaillé sur Vendeste pendant plusieurs années. Les années agence que j'ai fait, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient extraordinaires, m'ont formaté. Il y a des photographes qui sont des photographes extraordinaires qui passent dans les agences, qui se font formater et qui sont incapables de faire une photo personnelle après. Moi, si j'ai pu m'en sortir, c'est parce que j'avais toujours un Leica sur le ventre avec un film noir et blanc et que je faisais toujours des images qui étaient différentes et qui étaient rarement choisies par mon agence. Donc, il y a cette espèce de formatage contre lequel il a fallu que je lutte encore, et c'est pas du tout évident.
Vous travaillez, pardon, je reviens sur ce noir et blanc là que vous venez de citer, ou c'est moi qui le pense. Votre travail est uniquement noir et blanc ?
Non, j'ai fait de la couleur, mais je suis un photographe noir et blanc, je ne suis pas un coloriste. Donc la couleur, je peux en faire, mais la couleur, ça sera du noir et blanc avec des couleurs dessus. Donc ça sera pas quelque chose de passionnant. Je remplirai un contrat pour un journal sans aucun problème, mais j'ai pas mis la couleur en avant. Ma génération, c'était le noir et blanc. J'ai commencé ma culture photographique, c'est le noir et blanc, et je finirai en faisant du noir et blanc. Et j'ai même acheté l'appareil le plus cher qui existe, un appareil numérique qui ne fait que du noir et blanc.
C'est vrai ?
Ouais.
Vous venez de l'acheter, là ?
Non, je l'ai acheté il y a 2 ans, mais je suis très content de l'avoir acheté, parce que c'est ce qui me rapproche le plus de la photo argentique.
Très bien, vous ne travaillez plus en argentique.
Je fais, dans un projet que j'ai commencé, qu'il faudrait que je fasse accélérer, que j'accélère un peu, j'ai fait des panoramiques. Les panoramiques, on peut les faire qu'en argentique. J'ai fait des panoramiques, et c'est vrai que quand j'ai récupéré mes planches contact, j'ai éprouvé un plaisir absolument étonnant, que j'éprouve à chaque fois que je vais rechercher dans mes archives, dans tout ce que j'ai fait, en regardant mes planches contact, parce qu'il y a une vision, il y a une perception, il y a un toucher de la photo, des photos, qui est totalement différent que ce que l'on peut faire quand on fait du numérique et quand on regarde un écran. Même si le numérique, au niveau de la technologie, a tombé par terre, c'est absolument fabuleux, mais voilà, pour moi, il y a un manque, c'est pas la même chose. Donc l'argentique, j'en fais toujours un peu, et je me pose toujours la question de savoir, j'ai envie de reprendre, j'ai toujours gardé mes appareils donc classiques, Leica classique, avec lesquels je faisais du noir et blanc, et il y a des moments où j'ai vraiment envie de remettre un film noir et blanc dedans et de repartir avec.
Pourrions-nous regarder une photographie en couleur ? Elle est signée Julien Pébrel, et c'est vous, Alain Keller, qui allez vous livrer à cet exercice de description, enfin de dire ce que vous voyez. La photo est sur la page franceinter.fr, bien sûr.
Alors je vois un homme qui semblerait âgé, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si âgé que ça. Il a les cheveux blancs, il a une grande barbe blanche, il y a une lumière, une très belle lumière, une espèce de clair-obscur qui éclaire son visage. La photo, je la trouve très belle. À l'extrême limite, ce n'est même pas une photo, c'est un tableau. C'est un tableau qui me fait penser à la peinture de l'époque tsariste, de la grande Russie des tsars. Voilà, c'est un tableau. Je verrai bien cette photo dans un musée, surtout, et je ne sais pas si à l'origine elle est en format carré.
Moi, je la verrais bien chez moi, carré. Mais bon.
Mais ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, on est ailleurs. Et il y a le regard de ce personnage qui regarde droit devant lui. On ne sait pas s'il regarde dans le vide, s'il fixe quelque chose, s'il pense à quelque chose. Il pense sans doute à quelque chose. C'est un tableau.
Julien Pébrel, vous êtes l'auteur de cette photographie.
Alors, ce monsieur, il s'appelle Nikolai. Alain a totalement raison, il n'est pas si vieux qu'il en a l'air. Je crois qu'il a une grosse quarantaine d'années, une petite cinquantaine d'années. Il vit en Géorgie, dans un village qui s'appelle Gorelovka, et il fait partie d'une communauté religieuse, d'une secte orthodoxe qui s'appelle les Dourobor. Donc, l'histoire de cette communauté, c'est des gens qui ont débarqué de Russie Au début du 19e, parce qu'ils voulaient pratiquer leur religion hors du nouveau rite orthodoxe tel qu'il était imposé. Ils sont pacifistes, ils refusent de prier dans les églises, ils refusent d'avoir des icônes, ils sont pour la plupart d'entre eux aussi végétariens, ils ont un rapport à la nature très fort et très particulier, très mystique. Donc j'ai rencontré Nikolai en juin 2017 dans ce village de Géorgie, et c'est un peu le chef de on va dire un peu autoproclamé, de cette communauté religieuse. Donc, voilà.
Et c'est un sujet qui est, par exemple, apparu dans l'Obs.
C'est un sujet qui a été publié dans l'Obs, ouais,
hein, n'est-ce pas ?
Ouais.
Ouais. Mais là, quand vous étiez parti, la presse avait déjà passé commande ou non ?
Oui, pas l'Obs, mais je travaillais avec un journaliste, Clément Girardeau, qui avait réussi à convaincre un titre suisse qui s'appelle La couleur des jours, qui a un format un peu... étrange, c'est un trimestriel, peut-être un peu dans l'esprit de ce qu'on a en France avec 21 ou des choses comme ça, mais qui est en format papier journal, et qui s'était engagé sur 12 pages pour un road trip en Géorgie sur les traces des minorités ethniques et religieuses. C'était une drôle de surprise de se dire que des gens étaient capables de s'engager sur ça. Les Suisses sont d'ailleurs vachement plus curieux que les Français sur ce genre de sujet-là, c'est assez étrange.
Écrivez-vous quand vous partez faire un sujet, travailler soit sur un travail personnel, soit sur une commande? Écrivez-vous une sorte de journal de bord?
Non, j'ai très envie d'écrire, mais j'ai on va dire une sorte de complexe vis-à-vis de l'écriture.
Ah bon?
Ouais, je lis beaucoup, j'aimerais écrire et j'ose pas.
Alain Keller, vous pouvez lui donner des conseils parce que vous écrivez beaucoup, vous.
Oui, je suis bavard.
Vous êtes bavard, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous tenez un journal.
Journal d'un photographe.
Voilà, et c'est vraiment intéressant. Vous alors, accompagnez vos photographies.
J'ai
de
repris
texte.
Effectivement mon histoire de photographe avec de temps en temps quelques parenthèses quand je me retrouve sur un sujet ou je suis en train de travailler sur un sujet. Je me suis aperçu que l'écriture était un complément quasiment indispensable à la photo. J'ai gardé en souvenir des moments où je travaillais pour des magazines, pour des journaux, et où on envoyait un journaliste et un photographe. Souvent, c'était pour confronter leurs regards. Il y avait le journaliste qui écrivait, il y avait le photographe. C'était deux visions différentes de la même chose, jusqu'au jour où, finalement, on a demandé au photographe d'illustrer les propos, où on a utilisé les photos pour illustrer les propos du journaliste. Et j'ai trouvé ça très frustrant. Ce qui se passe quand on photographie, moi, j'attache une grande importance au cadre. On a un cadre, je le marque d'un bord noir, suivant la tradition Cartier-Bressonienne. Mais il y a un hors-champ. Et le hors-champ, je l'écris. Ou j'essaye de l'écrire parce qu'il se passe des tas de choses qui éclairent un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et ce hors-champ, je prends des notes quand je me déplace, j'écris, je le développe et j'essaye de le transcrire dans mon journal. C'est pas toujours facile parce que j'ai pas toujours écrit, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît excessivement important pour un photographe.
D'ailleurs, dans ce hors-champ, on peut s'imaginer qu'il se passe des choses que vous n'avez pas forcément envie de raconter. Je pense à certaines photos. Vous est-il arrivé, nous, spectateurs, nous ne pouvons pas le voir, mais qu'une photo vous mette en danger? En danger physique, par exemple?
Alors, j'ai été en danger physique plusieurs fois. Bon, comme beaucoup de photographes, hein. J'en tire aucune gloire. Quand j'étais, ne serait-ce qu'au Salvador, où un photographe, Olivier Rebaud, s'est fait blesser mortellement, il est mort 15 jours plus tard, à côté de moi, j'étais dans le champ de tir des rebelles qui tiraient sur l'armée avec laquelle nous étions dans un petit village qu'ils venaient de libérer. J'ai été dans d'autres situations où on entend les balles siffler, mais c'est fréquent pour les photographes. J'ai jamais recherché, c'était les situations, c'était le Salvador me passionnait, cette guerre civile, le Guatemala et beaucoup d'autres endroits. J'ai été en danger le jour où je me suis retrouvé avec Ingrid Betancourt, quand elle a été enlevée, j'ai été enlevé avec elle. Ils m'ont relâché au bout de quelques heures avec son chauffeur. On l'est de toute manière, mais on peut être très bien en danger aussi sur le pavé parisien quand il y a des manifestations. Le photographe est souvent une cible. Pourquoi ? Parce que la photo, c'est la preuve.
Parce qu'il est témoin.
Il est témoin. On veut se débarrasser des témoins. Combien de photographes se sont fait tabasser en France pendant les manifestations par les CRS, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison. Le photographe est souvent un gêneur.
Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a full star tries his best to make the white pearl shine, glimpses of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
Tamino, une voix flamande dans les nouveautés musicales de l'été, Habibi. Habibi, c'est le titre et ça veut dire « mon amour » en arabe.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Le photographe est souvent, toujours, un gêneur, disiez-vous, Alain Keller. Julien Pébrel, avez-vous cette sensation-là quand vous travaillez? Ou n'êtes-vous jamais dans des situations difficiles parce que vous choisissez des sujets qui vous éloignent de l'actualité, par exemple?
Ouais, globalement, c'est à peu près ça. Je me suis jamais, moi, vraiment retrouvé dans des situations où j'ai eu peur. Un petit peu, peut-être, quand j'étais dans le Haut-Karabakh, mais comparé à ce que vivent d'autres photographes, c'était assez ridicule. Oui, de fait, les sujets sur lesquels je vais, moi, m'ont jamais mis dans des situations de danger.
Par exemple, parlez-nous de quelques sujets.
Bah, moi, j'ai commencé avec un projet assez long sur un village qui est le kilomètre zéro du Danube, qui s'appelle Sulina, qui est donc au bord du Danube et au bord de la mer Noire. un endroit où on, qui est accessible que en bateau et qui a une atmosphère assez assez particulière, très mélancolique. Je suis beaucoup attiré par la mélancolie des lieux. Donc j'y suis retourné longuement. Peut-être que j'y retournerai encore, mais et après, comme disait Alain, j'ai beaucoup bossé dans le Caucase, dans le Haut-Karabakh aussi, où je me suis rendu beaucoup de fois. Donc, qui est un état non reconnu, qui appartient officiellement à l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplé d'Arméniens et qui de fait est indépendant depuis maintenant quasiment 25 ans. Et puis j'ai continué un peu partout dans le Caucase, donc en Arménie, en Géorgie, en Abkhazie.
Vous avez vraiment ce point commun d'aller dans les mêmes lieux. Vous êtes allé dans les mêmes lieux,
ouais,
non ouais. Alain Keller.
Ouais, ouais. Moi, j'ai été au Karabakh quand je travaillais sur les minorités, donc sur Vendeste, et j'ai assisté d'une certaine manière à la dernière grande offensive azérie contre les Karabatis. Je pense que le Caucase est un endroit qui est assez magique pour les photographes. J'y retournerai volontiers. Il y a des tas de choses. C'est un endroit dont on parle beaucoup au travers des guerres, au travers de la guerre en Tchétchénie, au travers de la guerre du Karabakh qui n'est toujours pas résolue. Mm-hmm. Il n'y a pas de traité de paix encore qui s'est fait. Donc voilà, donc on a cette passion commune avec en plus des paysages qui sont à tomber par terre quand vous êtes en Géorgie, quand vous voyez cette muraille des montagnes du Caucase qui apparaît devant vous. C'est beau.
On va regarder un autre paysage avec l'une de vos photos, Alain Keller. Je l'ai donnée à Emmanuel Kérad. Il est producteur de la librairie francophone sur France Inter. Il ne sait pas d'où elle vient ni qui l'a faite. Il la regarde.
Alors là, j'ai une photo en noir et blanc avec un rétroviseur. Et dans le rétroviseur, il y a deux personnages. Une femme voilée, en partie. Et puis un homme avec sans doute un turban sur la tête, je pense. Et c'est une photo en noir et blanc avec beaucoup de grain. J'aime beaucoup le grain de la photographie. Alors on peut imaginer d'ailleurs qu'elle a été prise il y a quelques années de ça. Ça fait un peu photo ancienne, mais c'est pas sûr. On est dans cette voiture qui est couverte de boue, puisqu'on voit d'ailleurs sur le pare-brise des traces de boue. On arrive sur un paysage rocailleux, un peu minéral. Pas vraiment désertique, parce qu'il y a des petites habitations en béton et des arbres derrière. Et puis on a ces deux personnages donc photographiés dans le rétroviseur, donc on imagine que le photographe est placé à l'avant. Et il nous donne une impression à la fois de quiétude, peut-être aussi d'inquiétude justement. On est entre les deux, alors on est peut-être dans un paysage en guerre d'ailleurs, c'est très probable. Ils vont on ne sait où, c'est pas très clair, c'est un paysage assez sommaire, assez brut. On est dans une émotion quand même parce qu'elle attire le regard, cette photographie, grâce à ces personnages dans le rétro. On se demande vraiment qu'est-ce qu'ils font là. On se demande vraiment où ils vont et dans quelle situation est le photographe qui est sans doute photographe reporter et qui fait un reportage voilà, sur un pays ou sur une communauté. C'est une belle photo en tout cas.
Emmanuel Kérad, Alain Keller va vous répondre. Alors où sommes-nous ?
Alors on est à Boudis, en banlieue de Jérusalem. J'étais en voiture et en bas d'une très grande montée, je vois ce couple de vieux Palestiniens qui attend un autobus. Je m'arrête, je les prends avec moi, ils sont très contents. Et quand j'arrive en haut de la montée, je vois dans le rétroviseur à la fois leur visage et en face de moi, je vois le mur qui est en construction. On est, je crois, en 2004 ou 2005. Et la terre aride de Jérusalem avec quelques arbres qui se trouvent sur la colline, c'est-à-dire on a sur cette photo tous les ingrédients de la guerre au Moyen-Orient, le problème palestinien, la terre, c'est une guerre pour la terre. Donc j'arrête ma voiture et je fais la photo.
Tout simplement.
Tout simplement.
Que pensez-vous de cette photographie, Julien Febrel ? Vous la connaissiez ?
Je la connaissais, ouais. Je la trouve aussi extrêmement touchante. Et effectivement, elle a une capacité à résumer beaucoup de choses, à concentrer beaucoup d'informations sur ce conflit. Alors moi, je sais où ça se passe, etc. Mais je trouve ça très intéressant d'entendre la façon dont une personne qui n'a aucune information sur ce lieu-là réussit petit à petit à la décrypter et à en tirer beaucoup de vérité.
Je dirais le principal. Ouais. Je trouve ça incroyable.
Et c'est très rassurant finalement sur la photographie. Bon, ça veut dire que
ouais. C'est très rassurant sur le talent de l'auteur, je trouve.
Ouais, ouais, mais voilà.
Non, qu'en pensez-vous, Alain Keller ?
Ouais, je sais pas.
Vous êtes modeste. S'il ne vous restait qu'une photo à prendre, Alain, où iriez-vous là, en sortant de ce studio ?
Je pense que je me suis beaucoup, en vieillissant, j'ai beaucoup eu envie de prendre les gens autour de moi. Mon voyage photographique a commencé dans le monde, que j'ai parcouru pendant très longtemps. J'ai été routard, j'ai été ensuite photoreporter à Sigma. Et ensuite, je me suis replié un peu, notamment avec la vieillesse de mes parents, et je me suis aperçu que, des fois, les choses les plus importantes à être photographiées étaient la porte d'à côté. C'était votre femme, c'était votre fils, c'était des gens qui vous étaient proches et qu'on a envie de, à la fois de regarder et de garder.
Alors écoutez, vous parlez de porte d'à côté, vous parlez de gens proches. Je vais vous proposer de regarder une dernière photo. C'est donc Fanny Leroy qui nous dit ce qu'elle voit.
C'est une image interpellante. Donc on voit, j'imagine, un couple de personnes d'un certain âge. C'est une image en noir et blanc et qu'on surprend dans l'embrasure d'une porte entrouverte. Lui est habillé avec un pull en col V, une chemise. Il est en train de glisser dans sa poche ses lunettes de vue. Et derrière lui, sa femme est encore en robe de chambre. Elle a ses deux mains serrées comme si elle voulait refermer le col par pudeur. Et elle a presque un petit sourire sur les lèvres. Et tous les deux ne regardent pas dans la même direction. Lui a l'air un peu inquiet et elle est comme si elle était perdue dans sa rêverie avec une ébauche de sourire. C'est très beau. On ne sait pas qui est là, à qui ils ouvrent la porte. Tout est permis. On peut tout imaginer en regardant cette image. C'est ce qui la rend assez poétique et féerique. Et en même temps, voilà, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaisse? Je ne crois pas au regard de cet homme qui est net et qui a ce regard un peu inquiet. C'est une image qui donne envie d'écrire, je dirais.
Les mots de Fanny Leroy, c'est une image qui donne envie d'écrire. Alain Keller.
Oui, c'est bien. C'est une photo de mes parents. Derrière, il y a effectivement ma mère qui n'est pas là, qui est là, mais qui n'est pas là parce qu'elle est ailleurs. Elle a la maladie d'Alzheimer. Et il y a mon père qui semble un peu inquiet, mais j'ai fait cette photo alors qu'ils allaient refermer la porte de leur maison où je venais de leur rendre visite. Et en fait, on a l'impression, c'est des petits vieux. Voilà, mes parents, c'est des petits vieux. Je les ai photographiés comme, ils sont comme tous les petits vieux dans le monde, avec le drame qu'il y a en plus, puisque mon père s'occupait de ma mère, et ça l'a énormément fatigué, puisqu'il a fini par mourir avant elle. Et j'aime beaucoup ce côté, j'avais un rapport très fort avec eux, et je crois que le fait d'aller souvent les voir, de les aider à faire quelque chose, ça m'a aidé à les photographier. C'est-à-dire que l'appareil photo a été pour moi d'une aide absolument magnifique dans mes rapports avec mes parents que je redécouvrais.
Une dernière question, Julien Pebrel, elle est pour vous. Et vous, si vous sortez de ce studio, je vous dis, vous ne prenez qu'une image et c'est terminé.
C'est horrible.
Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est déjà une bonne réponse.
Ouais, c'est horrible, ce sera ma réponse.
Voilà, très bien. Bon, je vous remercie beaucoup tous les deux. Vous allez retrouver sur le site franceinter.fr à la page Regardez voir tous les liens avec l'agence Myop, avec vos travaux, avec votre blog sur Facebook, les livres qui, je pense, Vendeste est épuisé, j'imagine. Alain Keller.
Oui, il est épuisé.
Voilà. Julien, vous auriez un livre à nous indiquer?
Ma contribution à la collection des Myopzines de l'agence Myop.
Très bien, merci beaucoup. Bon après-midi à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Alors bien sûr, je vous donne les adresses des sites d'Alain Keller et Julien Pebrel. C'est simple, hein, alainkeller.com, julienpebrel.com. À la technique cet après-midi, Vincent Godard. La réalisation, c'est Marie-Hélène Fauquet. Attachée de production, Perrine Malinge. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. Et puis, vous avez entendu Emmanuel Kérad à propos d'une photo d'Alain Keller. Eh bien, vous pourrez le retrouver cet après-midi à 18h sur France Inter pour le Club de l'été. Et nous, demain, à 14h, nous partirons à Venise pour visiter la collection François Pinault. Et à l'occasion, nous parlerons de Bourges. Et puis, nous irons aussi à Alger avec les mots d'un jeune photographe algérien, Abdo Chanan. Dans un instant, vous retrouvez Johnny dans la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny. Bel après-midi sur France Inter.